Bonjour à tous et merci de rejoindre cette table ronde qui a pour thème donc évidemment la silver economy, mais sous l'angle de la diversité de son périmètre ou de son marché, selon la sémantique que les uns ou les autres veulent bien accepter. La question de la silver economy, évidemment, elle est majeure pour les services à la personne. Elle est majeure pour les acteurs traditionnels, serviciels, des services à la personne. Les représentants sur cette table ronde du secteur, donc Didier Château, qui préside donc l'entreprise générale des services, GDS. Olivier Legal, le directeur marketing du groupe ISIA. Merci Olivier d'être avec nous. Philippe Mezzantin, président de Medetic Technologies et aussi administrateur au sein de la Fédération française de domotique. Merci aussi donc à tous d'être là, ainsi qu'à Jean-Paul Vimon, vice-président du cluster TechSapWest, cluster que l'on connaît bien à la Fédération pour travailler avec TechSapWest depuis plusieurs années. Avec quelques belles réalisations, je pense qu'on peut dire, ce sont de belles réalisations, de belles expérimentations. Je pense notamment à la maison domotique d'application pédagogique, mais pas seulement. Et donc c'est très important pour une fédération comme la FESP et ses membres, ses adhérents, de pouvoir effectivement comme cela partager la connaissance de nos métiers et du terrain avec d'autres acteurs qui sont des acteurs plus technologique, on va dire, à ce stade du débat. Aujourd'hui, la silver economy a pris une grande place dans les services à la personne. Elle a pris une grande place sous l'angle du maintien à domicile, bien sûr. Peut-être a-t-elle pris aussi une place importante, ou reste-t-il encore une place à prendre aussi auprès d'autres métiers des services à la personne? C'est une des questions que l'on va aborder aujourd'hui. Nous avons signé le contrat de filière service à la personne avec les ministères concernés, ministère des Affaires sociales et ministère de l'économie et des finances, il y a maintenant un certain temps, c'était en décembre 2013. Il s'est passé donc maintenant 2 années, on peut dire, et c'est toujours intéressant de jeter un petit regard en arrière et de se dire quelle a été la part de chemin qui a été réalisée et puis que reste-t-il à faire. Je voudrais commencer à poser une question à donc Philippe Mezzantin sur son ressenti, lui, de la silver economy en tant que, j'allais dire, ingénieur, mais Philippe, n'hésite pas à me reprendre sur les qualificatifs ou la façon de nommer les métiers des uns et des autres. Quelle est l'image et que représente, quel enjeu représente aujourd'hui la silver economy pour la Fédération française de domotique?
Effectivement, je suis un technicien pur cru, c'est tout à fait juste. En revanche, mes pères disent que je suis un technicien qui a mal tourné en sens que j'ai essayé d'avoir une vision un peu plus transversale de la problématique et pas simplement une vision technique. C'est effectivement un enjeu majeur pour la Fédération française de la domotique, puisque pour ces outils, ces technologies qui sont déployées au sein du logement, il y a aujourd'hui deux marchés essentiels. Il y a celui de l'optimisation de la consommation énergétique des logements, et puis il y a celui de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes restant à leur domicile. Donc c'est vraiment un sujet clé depuis quelques années sur lequel la Fédération française de la domotique s'investit énormément.
Jean-Paul Vimon, par rapport à ce qui vient d'être dit, comment se situe TechSapWest finalement? Vous êtes, vous, un bras armé, vous êtes un organisme finalement qui permet aux produits qui sont créés de pouvoir trouver aussi leur marché?
Oui, TechSapWest, c'est un cluster d'entreprises qui a comme caractéristique de rassembler finalement l'ensemble des acteurs de la silver economy et des services à la personne sur un territoire, la Normandie. Donc on a une approche effectivement à la fois verticale, mais en même temps obligatoirement très transversale, puisque constamment on croise les regards de spécialistes dans leur métier. Alors, moi, quand j'irai face à cet intitulé de table ronde, la question, il y a plein de questions que je me pose.
On attend surtout des réponses. Mais...
Oui, c'est ça. Alors, répondre à la diversité des marchés, bon, un marché pour moi, c'est à la fois l'offre et c'est la demande. Donc, je crois que ce serait intéressant d'avoir l'avis de ceux qui consomment ces différents services, et je veux bien en parler. Et puis après, c'est effectivement l'offre. Et là, on a parlé de l'offre des industriels, mais il y a aussi l'offre des prestataires de services. Je crois aussi qu'il y a l'offre du secteur médical, puisque le médical sera présent au domicile. Et probablement, il faut tenir compte aussi de l'avis des prescripteurs qui sont... alors, je pense aux collectivités, par exemple, hein, ou aux tiers payeurs, qui sont évidemment des intervenants majeurs dans ce marché qui, effectivement, présente une caractéristique forte dans ce domaine-là.
Olivier Le Gall, pour les résidences-services donc du groupe Isia, quelle est votre approche de cette question de la diversité, finalement, de la silver economy,
du marché de la silver economy. Alors pour le groupe Isia, donc le groupe récent, parce qu'on a un an d'existence, mais une vision d'exploitant de longue date par rapport aux résidences seniors. Donc nous, pour la silver economy, en fait, on le voit vraiment comme un écosystème où on va travailler tous ensemble, en fait, aussi bien avec les municipalités qui ont un besoin d'hébergement pour leurs seniors que les différents intervenants médicaux, paramédicaux, qui vont être un relais entre le résident, les familles et leur sécurité, en fait.
Ça veut dire qu'en fait, vous dressez des partenariats. On va venir avec la générale des services qui, je le sais, a un certain nombre d'initiatives en la matière, mais vous inscrivez dans une démarche proactive envers les autres acteurs de l'écosystème. On pense aux techniciens, par exemple.
Le but, c'est d'apporter une réelle réponse aux résidents, à la personne âgée ou senior qui choisit de vivre en résidence senior. Et donc, il faut lui apporter un appartement, un logement adapté, sécurisé. Donc forcément, il faut s'entourer des prestataires qui apportent la sécurité. Donc on apporte une sur place, mais chaque résident choisit d'avoir son propre service, notamment à domicile, où une personne de l'extérieur peut intervenir sur une résidence senior, car rien n'est imposé sur une résidence senior. Après, on va s'entourer de différents prestataires pour adapter un logement avec différentes salles de bain adaptées, les rampes des barres de maintien, la domotique à notre niveau en résidence senior pour faciliter le quotidien de l'habitant, quoi.
Didier Château, quand Jean-Paul Vimont, par exemple, mais aussi les autres intervenants disent qu'il faut faire en sorte que l'offre rencontre en fait les besoins. Vous, comment vous vous y prenez avec la générale des services? Je sais que vous êtes plutôt en avance sur un certain nombre de points et vous êtes plutôt innovant en la matière.
En fait, les services, enfin, la silver economy, on a un paradigme juste à résoudre. Moi, je veux donner des réponses, mais je veux poser une bonne
Merci.
Question. C'est qu'on a un secteur où le financeur n'est pas le prescripteur, le décideur n'est pas l'acheteur et l'utilisateur n'est rien de tout cela. Donc en gros, la personne âgée, elle est qu'à la fin de la fin de la fin du maillon. Et voilà pourquoi on a autant de stands à côté qui sont beaucoup de start-up très imaginatives et avec beaucoup d'idées. Mais pourquoi la silver economy, elle a bien du mal à se diffuser au sein de l'économie. On parle de 2013. Aujourd'hui, il n'y a rien réellement de filière en tant qu'industrie. On est au début. Nous savons tous que c'est une excellente idée de fédérer tous les produits et services pour le bien-être, pour le bien vieillir et maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, on a tous du mal à le diffuser auprès des personnes âgées. Là, le vieux, c'est l'autre. On n'est jamais, il y a toujours plus vieux que soi. Donc une personne âgée refuse tout le temps d'être considérée comme un vieux, comme une personne âgée. Et donc à partir du moment où on gardera cette idée-là, on n'arrivera pas à diffuser des produits de la silver economy. Donc il faut prendre le problème exactement dans l'autre sens. Il faut partir de l'usage, de ce qui est attendu par la personne. Et effectivement, comme le dit Olivier, les services à la personne sont l'acteur pivot de la relation auprès d'une personne âgée, c'est celle qui connaît le mieux les besoins au quotidien, c'est celle qui connaît les freins justement à l'usage et après, demain, au financement des solutions. Le service à la personne, c'est vraiment la capacité de diffuser de manière importante sur tout le territoire des solutions qui soient finançables, donc à un réel coût acceptable, mais qui aient une réelle utilité auprès de la personne âgée.
Alors, il y a une question d'information, on va y revenir tout à l'heure, mais quand on constate, avec d'autres hein, d'ailleurs ça a été dit, mais quand on constate qu'en France seulement 3% des plus de 65 ans sont équipés en téléalarme, alors que nous sommes à quasiment 16% en Grande-Bretagne par exemple, est-ce que c'est juste une question de bonne connaissance des besoins des personnes âgées? Est-ce que c'est pas aussi là une question sur les incitations des politiques publiques vers certains types de produits ou autres? Vous en pensez quoi de cela, peut-être du côté de la Fédération française de domotique?
Alors effectivement, il y a plusieurs problématiques qui sont liées à cette faible diffusion des produits. D'une part, lorsque l'on parle de téléalarme, en général, on commence à parler de téléalarme ou de téléassistance après le premier incident dans le parcours de vie d'une personne en perte d'autonomie. Et très rarement, on a anticipé les choses. Et c'est en ce sens que, notamment la Fédération française de la domotique, avec d'autres acteurs du marché, comme la SBA, se sont fixés comme objectif de réfléchir un peu à la préparation des bâtiments en amont, de telle sorte que progressivement, au fur et à mesure de l'apparition des besoins, on puisse intégrer des technologies dans l'environnement des personnes en perte d'autonomie, sachant que je voudrais vraiment... préciser que notre position est extrêmement claire. Les technologies ne sont pas là pour se substituer à l'intervention humaine, bien au contraire. Les technologies qu'on peut installer dans l'environnement d'une personne en perte d'autonomie, elles ont deux vocations. Elles ont une première vocation, bien évidemment, d'aider l'aidé, mais également d'aider les aidants. Et pour cela, eh bien, il faut, comme ça a été dit à plusieurs reprises, que l'on réfléchisse en amont ensemble et que l'on ait cette vision transversale de la problématique qui, bien en amont, nécessite de considérer un peu l'environnement dans lequel on va produire du logement pour les personnes âgées. Donc ça touche à l'urbanisation, à un certain nombre de critères dont on va tenir compte pour imaginer les solutions de logement de demain pour les personnes en perte d'autonomie. Et puis en aval, c'est aussi connecter les fournisseurs de services, les opérateurs de services aux technologies qu'on a installées. Pour vous donner un exemple, vous pouvez installer le plus beau détecteur de chute du monde dans le logement d'une personne dépendante. Si vous n'êtes pas organisé pour aller la ramasser lorsque votre technologie a détecté qu'elle est tombée par terre, votre truc ne sert à rien, c'était même pas la peine de l'avoir installé. Donc je crois qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Il faut véritablement avoir cette vision transversale, réfléchir à l'amont, réfléchir à l'aval et après déployer les technologies et les services qui soient le plus adaptés. Et c'est en ce sens qu'on essaye de modifier positivement notre raisonnement de technicien au sein de la Fédération française de la domotique.
Alors Didier Château... est-ce que vous êtes, vous, en tant qu'entreprise de service à personne, qui au quotidien sont auprès des personnes âgées dans leur domicile, est-ce que vous vous sentez, vous, intégré dans la conception des solutions, des partenaires que vous pouvez avoir, et à quel niveau, suffisamment ou pas suffisamment?
Pas suffisamment, mais aujourd'hui, les industriels ou les concepteurs de solutions viennent nous voir pour tester. Et où nous avons sur les territoires des organismes comme les Gérontopoles, par exemple, en Pays de Loire, mais dans d'autres régions, des structures qui sont justement créées pour mettre en relation des universitaires, des scientifiques, des médecins, des personnes du corps médical et des entrepreneurs pour justement adapter des solutions qui soient acceptables par un modèle économique déjà, et puis ensuite dans la diffusion et dans l'usage que va avoir une personne âgée. Donc nous, on est terrain d'expérimentation déjà de beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir et qui sont très heureuses de tester leurs solutions auprès de nos clients.
Et vous êtes administrateur du Gérontopole des Pays de la Loire au titre de la FESP. Je pense que c'est utile aussi de le préciser. Jean-Paul Vimon, est-ce que finalement, TexapWest, ce n'est pas justement sa première mission que de mettre tout le monde autour de la table pour explorer la meilleure solution entre technologie et intervention humaine.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, notre vocation c'est de faire travailler des groupes projets en transversalité, travailler avec les branches. Et pour cela, on a développé en particulier un living lab du réseau Santé Autonomie, et qui permet justement, à partir d'un objet technologique et ses services associés, d'avoir, je dirais, des améliorations, un retour qualifié. Donc ça, c'est un point, je pense, tout à fait important. Ce Living Lab, je dois le préciser, fonctionne avec un certain nombre d'experts, un expert en domotique et un expert designer, c'est-à-dire un ingénieur capable d'apprécier les qualités sensorielles, design d'un produit, qui dépend de la faculté de Rennes. Et puis d'autre part, donc on travaille avec un club usager, c'est-à-dire qu'on va solliciter des personnes qui sont concernées par le produit, en particulier des personnes âgées, et qui ont le profil par rapport au produit qu'on essaye d'évaluer. Donc voilà, pour répondre à la question, donc ce travail est en plein développement et il me semble fondamental, car je crois que on est face à une problématique qui est celle d'une part de convaincre les personnes utilisatrices et leurs familles de la pertinence des objets qu'on peut mettre à leur disposition avec les services, et puis d'autre part également convaincre les financeurs, les prescripteurs dont parlait tout à l'heure Didier Château. Hein. Donc là-dessus, on se rejoint complètement. Donc ça, c'est une activité qui démarre et qu'il faut absolument encourager aujourd'hui.
Quand vous dites encourager, c'est-à-dire
C'est-à-dire que c'est une de nos préconisations, c'est-à-dire inviter les industriels, les prestataires employeurs, mais aussi des organismes de formation, des collectivités locales, des hébergeurs en résidence-service, à s'impliquer dans de tels projets. Je crois que c'est absolument indispensable, et c'est à travers ça, et à travers la communication qu'on va pouvoir générer, qu'on pourra déployer des solutions incluant de la technologie.
Olivier Le Gall, vous êtes en ce moment en discussion avec des clusters de ce type?
C'est vrai que nous... On travaille pour faciliter le quotidien des seniors, mais dans une problématique de coût qui est importante. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la bonne image de l'idée du coût de domotiser un appartement, où on ne se rend pas forcément compte que tout est indispensable. On rêve d'un appartement suréquipé où on appuie sur un bouton, tout s'ouvre, tout... Aujourd'hui, on avance dans les technologies. On sait que nos résidences sont toutes équipées de Wi-Fi aujourd'hui. On peut pas ouvrir une résidence sans Wi-Fi. Donc là, c'est une avancée déjà par rapport à il y a quelques années. Et je pense qu'on va dans ce sens-là auprès de tout ce qui existe en domotique. Mais il faut pas que le coût interfère dedans, parce que nous, le nerf de la guerre, c'est le coût de ce que va payer le résident. Et il faut qu'il corresponde à la réalité du marché, et donc on peut pas tout y intégrer, et on a cette image là.
Si je peux répondre sur l'aspect coût, je crois qu'il faut avoir en tête qu'en ce qui concerne la dépendance, on arrive sur des coûts très élevés dans des établissements, et je crois que ce sera pour les industriels et les prestataires le coût de référence en dessous duquel il faudra arriver. Donc ainsi, proposer une solution acceptable, soit à domicile, soit en résidence-service. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Donc je rappelle que le niveau moyen de retraite est aux alentours de 24 000 euros par an, mais avec une médiane qui est inférieure à ça, hein, je rappelle, et en particulier aujourd'hui sur les plus de 75 ans. On serait plutôt à moins de 20 000 euros par an. Pour ce type de personnes, devoir intégrer une maison de retraite ou une EHPAD qui coûte 2000, 2500, voire plus par mois, c'est pratiquement impossible. De même qu'il apparaît aujourd'hui très difficile pour les collectivités et pour un certain nombre d'organismes tiers payeurs, je dirais, de prendre en charge les compléments. On a donc une ardente obligation de trouver des solutions technologiques avec de l'humain, bien sûr. Hein. Philippe l'a rappelé tout à l'heure, personne n'a envie de déployer des solutions uniquement technologiques. Hein. Donc ça me paraît important.
Sans l'humain, la technologie n'est rien.
Didier Château, vous, sur cette notion d'équilibre économique entre un service finalement qui évidemment a un coût dès lors qu'il a une certaine qualité, etc. Et heureusement, comment résoudre cette équation dans un contexte qui a été rappelé par Jean-Paul Vimon de difficultés de financement, finalement, à la fois des personnes, de nombreuses personnes, et aussi avec une difficulté du côté du financement public. Comment peut-on résoudre cela au moment où on parle d'équiper les appartements ?
On a un problème en France, c'est qu'on n'est absolument pas sur une économie préventive. Aujourd'hui, on est uniquement en curatif. On prend un médicament quand on est malade, on est soigné quand on sort de l'hôpital, on est très très bien pris en charge une fois qu'on a une pathologie, un accident, une chute. Par contre, la prévention en France, on ne connaît pas. Dans les pays nordiques, la prévention, c'est naturel. On fait du sport, de la gym, on fait attention à ce qu'on mange, on adapte le logement, même s'il est un peu moins joli, même s'il fait un peu plus logement de vieux, entre guillemets, il est adapté. On met des télassistances en Angleterre, les personnes âgées se promènent dans la rue avec leurs médaillons autour du cou, elles ne sont pas un défilé de mode, mais on fait de la prévention. En France, on attend, on est un pays latin, on attend de chuter, on attend que le problème arrive, et on attend le dernier moment pour agir. Et là, tout se met en route, les services sociaux, l'assistante sociale, on attend, on monte des dossiers, on déprend des plans d'aide, puisqu'on est un pays très redistributeur et qui fait beaucoup de l'État-providence. Hein. Enfin, ça va vite changer, à mon avis. Et donc, on attend toujours de l'État, toujours plus. C'est toujours à l'État de payer les soins, de payer l'auxiliaire de vie, de payer le soin à domicile. Et à un moment donné, comme le disait Jean-Paul, la maison de retraite, c'est le choc. C'est, non mais la maison de retraite, c'est combien par mois ? Non, mais c'est pas possible, mamie, elle va rester à la maison. Non, mais on va s'arranger, elle va rester à la maison. Elle peut pas aller en maison de retraite à 2500, 3000 euros par mois. C'est pas possible, elle en a pas les moyens. Donc, on est dans un moment donné où les Français vont devoir comprendre qu'ils vont devoir payer pour s'occuper de leurs personnes âgées, pour eux-mêmes s'autofinancer. Donc aujourd'hui, les contrats dépendance, on dépasse les 4 millions de titulaires de contrats dépendance. Donc personne n'en parle, mais aujourd'hui les Français s'auto-assurent sur ce risque. Ils n'attendent pas de leurs enfants, ils ne veulent plus être à leur charge, ils savent que l'État ne pourra pas payer pour eux, et aujourd'hui les gens commencent déjà à cotiser un contrat dépendance. Donc ça commence à changer, et je pense que c'est une question de génération. C'est plutôt les papy-boomers qui aujourd'hui ont 70, 72, 73 ans, qui ont profité des 30 glorieuses, qui ont compris qu'ils avaient consommé et qu'ils allaient devoir consommer des services pour les aider à rester chez eux.
Jean-Paul. Oui,
peut-être un complément et un point important. Quand on parle silver economy et service à la personne, il faut quand même clairement dire qu'on ne parle pas uniquement de population dépendante. La silver economy concerne les cheveux blancs, c'est-à-dire des personnes âgées. Généralement, on s'accorde pour dire à partir de 60 ans. C'est 20% de notre population, donc 20% de 66 millions d'habitants en France. Donc c'est tout à fait significatif. Cette population détient le patrimoine de la France à hauteur de 60%. Par contre, en termes de revenus, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément ce que l'on croit. Même s'il y a de très hauts revenus, il y a aussi de faibles revenus parmi les personnes âgées. Ce que je veux dire en spécifiant qu'on n'est pas sur des populations dépendantes, ça veut dire qu'on est quand même sur des chiffres qu'il faut bien garder. La population dépendante, c'est environ 300 000 personnes en France. Il y a, je crois, de l'ordre de un peu moins d'un million de personnes qui bénéficient de l'APA, c'est-à-dire l'aide pour, je dirais, compte tenu de leur fragilité après examen. Donc c'est une bonne nouvelle quand même, hein. On a donc des personnes âgées qui globalement se portent bien, assez longtemps, et qui globalement ont un certain pouvoir, je dirais, d'investissement, ou en tout cas d'achat ponctuel, sans aucun doute. Et je crois que, faisant ce constat, il est absolument évident qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur l'aspect prévention dont a parlé Didier, et je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il ne faut pas attendre une chute à domicile dans de mauvaises conditions pour réagir. Au contraire, il faut s'équiper d'un certain nombre d'outils. Il faut procéder à un certain nombre d'aménagements dans son logement pour pouvoir y rester jusqu'au bout de sa vie, puisque au fur et à mesure, je pense que des technologies tout à fait intéressantes et des services pourront être apportés. Donc voilà ce que je voulais dire.
Oui, merci. Plusieurs choses ont été dites, hein. D'abord, Didier Château indique qu'il y a certainement une prise de conscience des uns et des autres qui doit s'effectuer. Et ça rejoint les conclusions d'une note qui est sortie il y a 10 jours, hein, du Conseil d'orientation économique, qui indique effectivement que sur la dépendance, il va falloir se remettre à l'ouvrage. Il va y avoir une demande à ce qui est peut-être une nouvelle loi, et en tout cas avec des options qui iraient vers l'assurantiel. On verra ce qui va advenir de cela. Mais donc effectivement, c'est totalement d'actualité. Sur le coup, effectivement, moi je voulais rebondir. Je vous ai pas coupé, mais je voulais rebondir et me tourner vers Philippe pour savoir finalement cette histoire de coupe. Et après, on reviendra sur le périmètre plus élargi que vient de signaler Jean-Paul, mais pour savoir finalement, quand un robot coûte entre 600 et 8000 euros, d'abord on peut s'interroger sur la qualité respective de ces différents produits, mais on voit bien la limite pour ce type de produit en termes de, enfin, pour trouver son marché finalement. Vous en pensez quoi? Ça vous inspire quoi?
Effectivement, le coût de ces objets connectés, de ces technologies qui ont des poids à l'intérieur du logement est non négligeable. Alors pour juger de leur qualité, il y a effectivement, je dirais, des gens qui sont organisés pour les évaluer, pour les tester, et pour avoir, c'est plutôt ce qui me paraît important, pour avoir ce regard croisé sur les choses dont nous parlons finalement tous. Et ça nécessite de la part de tous les acteurs du marché un certain nombre d'initiatives. De notre côté, je dirais, le monde des gens de la technique, eh bien, on s'est aperçu que quand on interrogeait les domoticiens de nos réseaux en leur demandant quand, pour la dernière fois, ils avaient discuté avec un ergothérapeute, ils nous regardaient avec des yeux carrés en nous disant « un ergo quoi ?». Donc, si on n'organise pas, si vous voulez, un minimum d'échanges, de culture commune, très en amont, déjà dans le cadre de leur formation initiale, on va avoir énormément de mal à avoir des approches cohérentes et communes sur le terrain. Donc ça me paraît primordial, et on a pris un certain nombre d'initiatives dans notre fédération, avec par exemple les fédérations nationales des ergothérapeutes, pour avoir des modules de formation croisés, faire en sorte que au moins on partage un minimum de culture commune, un minimum de valeurs communes, un minimum de vocabulaire commun, pour pouvoir avoir une approche cohérente sur le marché. Et ça aide énormément dans le cadre du déploiement des solutions. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, et qui rejoint la question des coûts que tu posais, Olivier, c'est que si on a une réflexion très en amont, et que, alors bien évidemment, cela s'applique plus facilement à des bâtiments neufs qu'à des bâtiments existants, mais si très en amont, on intègre déjà le minimum d'infrastructures qui est nécessaire pour pouvoir déployer par la suite progressivement, en fonction des besoins des uns et des autres, les technologies qui seront nécessaires, et bien finalement, le gros du coût de l'infrastructure va être noyé dans le prix du béton, pour être caricatural. Et ça va considérablement faciliter les choses et faciliter le déploiement à long terme des différentes technologies et qui auront pu être testés et validés dans des organes comme TechSAP, par exemple.
Donc c'est toujours cette idée de transversalité entre les différents corps de métier, entre les différents intervenants auprès des personnes âgées, c'est ça hein, que j'entends, personnes âgées ou des aidants, hein, et voir si on suit Jean-Paul Vimont, voire bien plus encore, puisque dès lors qu'on serait senior à partir de 50 ans, on est concerné finalement par la cyber-économie. Je voudrais vous montrer un tableau et attirer juste votre attention sur deux chiffres de la colonne de droite, ils sont en rouge, et où on voit que finalement, pour les services à la famille, c'est-à-dire ça, c'est, on n'est pas vraiment dans la gérontechnologie, on est sur les services de type garde d'enfants, de type soutien scolaire, etc. 74% des Français, hein, c'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP, 74% des Français souhaitent que, dès lors qu'ils font appel à des services, ils soient une combinaison de la technologie et de la présence humaine. Si vous allez sur sur la ligne du bas, vous voyez que, évidemment, pour les personnes fragiles, handicapées ou âgées dépendantes, on arrive à 83% des Français qui souhaitent cette articulation entre le technologique et l'humain. Je vais vous montrer ces chiffres pour les rapprocher d'un autre chiffre où il est dit dans un autre sondage que la FESP a demandé à l'IFOP que 6 Français sur 10 déclarent avoir déjà pensé aux services dont ils auront besoin quand ils sont un peu plus âgés, pas forcément dépendants, mais plus âgés à leur domicile. Et donc 60% des Français disent « oui, j'y ai déjà pensé, mais je n'ai pas suffisamment d'informations ». Je n'ai pas suffisamment d'informations, on le voit aussi sur ce type de sondage. Au fond, est-ce que la solution, c'est pas de faire en sorte que ce soit à chaque étape de la chaîne de valeur que les professionnels soient sensibilisés pour exercer une information, une sensibilisation? On est bien dans la prévention.
Je vais illustrer exactement le propos d'Olivier. J'ai une entreprise qui s'appelle Domus Prévention, qui est spécialisée dans la détection des chutes et la prévention des chutes et d'aménagement à domicile. Et on a monté des modules de formation, d'e-learning avec la société Legrand, qui en fait ont des technologies simples et accessibles financièrement, sauf que les ergothérapeutes ne les connaissent pas. Ils n'ont pas le temps de faire cette recherche et cette appropriation d'une technique au service. Ils connaissent les besoins du domicile, les dysfonctionnements du logement. Quand ils voient le logement et se disent « Bon, madame, il vous faut renforcer la lumière, il faut désencombrer la pièce, il faut adapter le seuil de la salle de bain », ça, c'est clair. Par contre, ils n'ont pas le temps de faire le sourcing de recherche des solutions techno qui existent, et il y en a de plus en plus extrêmement simples. Et donc, Domus Prévention est exactement au cœur du dispositif entre des ergothérapeutes diplômés d'État et des industriels qui ont inventé des choses et qui sont basées sur les besoins du terrain. Et donc on met en relation les deux, on fait de la mise en relation, évidemment en cadre des services à la personne, puisque les produits vont être proposés dans le cadre des agences générales des services, mais pour vous dire que on est à la conjonction des besoins, un peu en coordination, en pivot des besoins du domicile. Le service à la personne, c'est vraiment la porte d'entrée, à mon avis, sur les besoins de demain.
Mais justement, si on pousse un peu cet exemple, effectivement très parlant, qu'est-ce que l'expérience de terrain de l'auxiliaire de vie général des services a pu apporter de façon concrète aux concepteurs, aux ergonomes, etc.
Mais c'est, en fait, c'est assez drôle parce que quand on a formé des responsables d'un CCS et d'un CLIC, qui sont des grands spécialistes du bien vieillir, entre guillemets, ils étaient en conjointement avec des auxiliaires de vie et avec des ergothérapeutes, et ont finalement... Chacun découvrait presque une facette, parce que chacun a sa fenêtre et regarde d'une certaine manière avec un angle de vue qui est très propre. Et en fait, chacun s'enrichissait de l'autre. Imaginez que pourtant, ils sont très proches dans un même secteur, mais on a à chaque fois des retours d'expérience différents. Mais il faut que quelqu'un réunisse autour d'un endroit, d'un lieu, d'une thématique précise pour que ces gens-là se parlent et qu'on ait un dénominateur commun.
Est-ce que l'on peut imaginer que des technologies et des modèles économiques qui sont en train de se mettre en place entre les différents acteurs, ce nouvel écosystème qui a un peu de mal quand même hein, à trouver sa vitesse de croisière. Est-ce qu'on peut imaginer que toutes ces démarches de transversalité, de rapprochement des mondes, puisse aboutir à un moment donné à adresser à un public plus large que les simples personnes dépendantes ou les simples personnes âgées, des produits, des outils, des process alliant l'intervenant à domicile et le service à distance, par exemple. Donc sur un périmètre suffisant pour trouver un équilibre économique qui ne repose pas uniquement sur le financement public.
À mon sens, ça a largement commencé.
Ah, oui, une bonne nouvelle.
Je pense que la silver economy parfois se cache, mais elle est parfaitement réelle vis-à-vis d'un certain nombre de produits et services. Je crois qu'il faut avoir en tête qu'un jeune retraité de 60 ans, c'est quelqu'un qui a eu une vie professionnelle durant laquelle il a largement utilisé Internet, l'ordinateur. Chez lui, il a des volets roulants, il a Internet, il a des médias. Il a un tas de choses. Il achète sur Internet. Donc, il est déjà complètement rompu aux technologies. Et il a déjà procédé chez lui à pas mal d'achats qui concernent soit directement, soit indirectement la silver economy. Mais souvent, ce sont des éléments de communication, des éléments de sécurité, des éléments de confort qui vont contribuer au fait qu'il pourra rester chez lui très longtemps, confortablement et en pleine forme. Et puis, progressivement, il intégrera, je dirais, des technologies qui concernent véritablement le maintien à domicile. Et puis, à un moment donné, il intégrera même de la technologie médicale qui va lui permettre d'être soigné à domicile. Hein, et les outils sont pratiquement prêts aujourd'hui. Et c'est vrai que pour les personnes de 80 ans et plus, c'est peut-être irréaliste ce que je vous annonce. Mais pour les jeunes seniors, sans aucun doute, ça va arriver. Et ça va arriver d'autant plus que je crois qu'il est important de dire qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle grâce aux technologies dites NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, et puis tout ce qui est intelligence artificielle. Et ce que nous annoncent les scientifiques, les philosophes, les chercheurs, c'est qu'on va connaître plus de changements technologiques dans les 40 prochaines années qu'au cours des 4000 dernières années. Donc c'est quand même considérable ce qui nous attend. Et c'est considérable les changements que les uns et les autres, qu'on soit prestataire, industriel, formateur, etc., on doit absolument prendre en compte maintenant. Vous avez bien compris que c'est une sorte de tsunami là, qui nous arrive. Hein. Et donc, soit on surfe sur la vague, soit on s'y prépare, soit on risque d'être balayé.
Et votre pronostic ?
Voilà.
Vous n'avez pas de pronostic ?
Moi, je suis optimiste.
Optimiste.
Donc, je pense qu'on va s'adapter.
Oui, Didier.
Pour prolonger
c'est le propre de l'homme de s'adapter.
Pour prolonger le propos, il faut savoir que 50% des produits et services qu'on consomme aujourd'hui n'existent pas dans 5 ans. Ils sont à inventer, sont à créer. Donc effectivement, ça peut être sous un nouveau canal de distribution, mais aussi c'est mixer justement, comme on le voyait tout à l'heure, des produits et du service en inclusion par des abonnements, par exemple, en partage. On ne veut plus posséder les choses, on veut bien s'abonner. Par exemple, une personne de 85 ans, elle ne va peut-être pas acheter un appareil technologique. Elle veut bien en avoir l'usage, mais pas l'achat. La famille va dire, un peu délicat, 2 000-3 000 euros, elle a 86 ans, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, on a compris. On a compris que l'usage, elle est éventuellement prête, mais pas l'achat. Donc à partir du moment où des structures, des entreprises ou des associations mettront en place des services en inclusion sous forme de bouquets inclusifs dans du présentiel, il y a tout à fait de possibilité de créer des choses très innovantes à partir de technologies complexes, mais qui sont simplifiées, présentées de manière simple. Et à cet égard, je voudrais présenter une initiative qui est vraiment intéressante de l'UGAS, qui est l'Union nationale des achats publics, qui a développé une direction de l'innovation. C'est-à-dire que tout ce qui est collectivité, mairie, département, région, l'UGAS référence des entreprises via des appels d'offres. Et donc l'UGAS, c'est 2 ou 3 milliards d'achats publics ils ont créé une branche service à la, enfin une branche silver economy spécifique. Ils ont créé un, dans le cadre d'un contrat avec France Silver, justement la possibilité d'accompagner des startups pour qu'elles soient diffusées auprès d'achats publics. Ça, c'est vraiment innovant parce que les collectivités aujourd'hui sont plutôt réfractaires à la nouveauté. Quand on touche à du public fragile, ils reculent toujours de deux pas en disant non, mais ça, on, plus tard, on verra. Hein. D'abord, il faut qu'on fasse des tests un peu partout. Et là, on voit qu'un acheteur public fait exactement l'inverse. C'est que lui, référence pour le compte d'eux et dit moi, j'ai validé, vous pouvez acheter en toute confiance.
Oui, on voit que l'innovation, en fait, elle n'est pas seulement technologique, elle peut aussi être organisationnelle. Elle peut aussi, on le savait, mais là, on a un bel exemple. Et elle peut même être réglementaire, au fond, hein, et libérer un petit peu la capacité de, finalement, d'innover. Moi, j'avais une question pour Philippe. Finalement, dans ce contexte disruptif, hein, de technologie totalement évolutive, constamment évolutive, est-ce que finalement les technologies vont pas plus vite que les capacités des acteurs à arriver à s'entendre, à travailler ensemble, à s'organiser ?
Alors, les technologies effectivement évoluent à une vitesse extrêmement rapide. Cela étant, si les différents acteurs, y compris les producteurs de ces technologies, réussissent à trouver les bons modèles économiques qui permettent de les déployer, quelle que soit la vitesse à laquelle la technologie évolue, à quelques exceptions près, on devrait pouvoir reproduire ce modèle et le pérenniser. Et c'est là où la dissociation entre, je dirais, les deux parties de technologie qui ont été évoquées prend tout son sens. Il y a ce qui a une forte adhérence au mur, ce qui est intégré dans le bâtiment, les réseaux, les accès au débit, le réseau Wi-Fi dont on parlait tout à l'heure, ça doit faire partie de manière systématique de l'environnement, de l'infrastructure, etc. Et on paye quelque part ça dans les charges locatives ou dans le coût d'acquisition de son logement. Et puis après, il y a tous les objets connectés dont on n'a pas forcément besoin de faire l'acquisition, mais que l'on peut louer dans le cadre d'un service inclus, où on vous apportera un peu comme aujourd'hui, vous louez votre box d'accès à Internet, vous ne l'achetez pas, vous la louez à l'opérateur, et bien avec cet objet, vous avez un service d'accès à la télévision, d'accès à la téléphonie, voire d'autres services de communication, et c'est probablement une des pistes qui verra un développement important à l'avenir en matière de technologie pour l'accompagnement de la perte d'autonomie.
Donc, selon vous, les professionnels, dans leur diversité, peuvent raccrocher les wagons, peuvent soutenir le rythme technologique dès lors qu'on s'organise un peu en amont et on équipe les bâtiments. Alors ça, c'est bon pour ce qui va arriver, mais pour tous les logements actuels, passé et actuel, c'est peut-être plus difficile.
Après, on est ravis de cette évolution technologique, mais il y a quand même des fondamentaux qui font qu'on doit apporter réponse aux seniors aujourd'hui. C'est par rapport à l'isolement, à la solitude, parce qu'un tiers des seniors aujourd'hui, d'après l'enquête Solitude en France, se sentent isolés. Et la technologie actuelle, bon, mis à part une webcam, on peut pas répondre à cette maladie qu'est la solitude. Mis à part les structures qu'on peut proposer, la convivialité. Et on a de plus en plus de seniors aujourd'hui qui viennent en résidence ou se rapprocher de la vie, de la convivialité, de l'échange. Et je pense qu'on va de plus en plus dans ce sens où le senior a de plus en plus besoin d'être entouré et pas forcément médicalement, entre guillemets, quoi. Vraiment d'être proche, d'avoir des réseaux d'animation, de convivialité. Et ça, quelles que soient les technologies, c'est quand même la base de ce qu'on peut proposer et ce qu'on doit proposer aux seniors aujourd'hui.
Je le répète une fois de plus, les technologies sans l'humain associé, ça a peu de sens.
Oui, je suis aussi tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des équilibres à trouver. Il faudra constamment faire l'effort de rester sur le fil du rasoir. C'est pas facile, mais Alors, je crois qu'il ne faut surtout pas refuser la technologie parce qu'on n'a pas trop le choix au regard de contraintes budgétaires, au regard du fait que c'est un tsunami qui arrive. Mais pour autant, il ne faut pas laisser tout faire. Je pense qu'il faut essayer d'encadrer un certain nombre de choses. Et ça, ça peut être le rôle des pouvoirs publics, des fédérations et des professionnels qui se manifestent à travers leurs fédérations. Ça, ça me paraît important. Hein. Donc, ne pas tout laisser faire, mais ce qui veut dire qu'il faut aussi, en tant que professionnel, vous engager dans ce domaine-là. Et c'est vrai aussi probablement pour les utilisateurs, hein, ce que je dis, hein, bien entendu, et pour les personnes aidées, pour les personnes aidantes, c'est évident qu'il faut qu'on écrive de futures règles.
Avec d'ailleurs des initiatives, notamment aux Gérontopoles des Pays de la Loire, sur la formation par exemple, avec la création de modules, peut-être Didier Château peut nous en dire quelques mots.
Effectivement, on a un beau projet avec la FESP et le Gérontopole de créer des modules pour les auxiliaires de vie, qu'elles puissent connaître les dispositifs qui existent, que ce soit classiquement la téléassistance, mais bien tout ce qui est gérontechnologie, et puis pourquoi pas aller plus loin dans, imaginons demain, l'installation et la maintenance de ce type d'équipement sur les objets connectés. Mais déjà la connaissance, ne serait-ce que d'une tablette tactile, toutes nos auxiliaires de vie n'ont pas la maîtrise de cet outil, et il y a aujourd'hui des solutions extrêmement simples pour qu'une personne âgée ne soit pas isolée justement de sa famille via des dispositifs sur une tablette qui permettent d'être reliés avec les enfants, les petits-enfants. Sauf qu'il faut en avoir une maîtrise et faire que sur le domicile, la personne âgée soit encadrée, suivie, et que l'auxiliaire, elle recule pas devant une tablette en disant « Non, 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 je connais rien à ça, je préfère ne pas y toucher, je vais tout vous dérégler. » Dommage, ça pourrait être justement la personne qui va lui apprendre à le faire un petit peu tous les jours pour faire que justement la personne âgée ne soit plus isolée dans son quotidien.
Si je peux ajouter quelque chose, ça me paraît être un élément extrêmement important. Compte tenu de la cible de population que nous avons, le déploiement de technologies doit impérativement être accompagné. Si on pose une technologie sur la table, un peu comme, je dirais, pour vous et pour nous, on vient vous installer une télévision à domicile, on vous laisse un mode d'emploi après vous avoir donné 5 minutes d'explication, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que tous les acteurs, du technicien à l'aidant au quotidien, soient impliqués dans l'accompagnement de la personne qui va être l'utilisatrice de cette technologie. C'est capital.
Est-ce qu'on s'acheminerait à terme, un jour, selon vous, rêvons un peu, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un rêve, une sorte de domicile connecté à une conciergerie de services très variés, qui serait peut-être plus qualitatif que Google et permettant de commander tout au long de sa vie, en fonction de ses besoins, des services qui, par abonnement ou autre d'ailleurs. Est-ce que c'est ça l'objectif final ou pas ?
Je me hasarde à tenter deux exemples.
Oui.
Des technologies qui, je dirais, le même outil permet de rendre deux catégories de services. Vous avez des technologies qui ont pour vocation de surveiller le niveau d'activité d'une personne âgée à l'intérieur de son logement et puis de déceler les signaux qui pourraient laisser supposer qu'il y a des modifications de comportement qui nécessitent qu'on aille le plus rapidement possible lui rendre visite pour se rendre compte de ce qui se passe. Et bien c'est une technologie qui intéresse aussi la mère de famille qui travaille et qui a les gamins qui rentrent de l'école normalement à 4 heures pour lui permettre de savoir si le niveau d'activité du gamin rentré de l'école à l'intérieur du logement est à peu près normal ou si ça ressemble plutôt à l'organisation d'un match de football à l'intérieur de l'appartement. Donc la même technologie, le même service peut trouver un usage chez le jeune couple qui a des enfants au domicile et chez la personne âgée. Je vous donne un deuxième exemple. Un signal faible chez une personne âgée à domicile, très intéressant à exploiter, c'est son niveau de consommation d'eau. Quelqu'un qui a une baisse progressive et régulière ou brutale de sa consommation d'eau, quand elle est sur la voie de la perte d'autonomie, ça dénote que bah, y a moins de toilettes, il y a moins de vaisselle, il y a moins de lessive, il y a moins de cuisine. Voilà, c'est un signal faible qu'il est intéressant de détecter, encore une fois, pour pouvoir donner des indicateurs aux aidants et les laisser faire leur boulot d'humain derrière. Eh bien, en fait, nous avons tous un compteur d'eau à l'intérieur de notre logement. Ces compteurs d'eau sont de plus en plus télérelevables. Vous n'avez plus un employé de la compagnie d'eau qui vient chez vous ouvrir le petit couvercle et puis relever à la main le chiffre qui existe sur le compteur. Mais cette indication, elle est transmise à distance. Eh bien, il suffirait qu'on l'utilise intelligemment pour pouvoir éventuellement produire ces signaux faibles à l'usage des aidants organisés autour de l'accompagnement de la perte d'autonomie.
Alors, on parle de collecte de données. Le temps passe, c'était l'un des points qui nous restait encore à traiter. On a encore quelques minutes pour ça, c'est extrêmement important. Didier Château, vous tous, vous venez de dire, oui, il y a une question quand même de réorganisation d'un équilibre économique, finalement. C'est qui fait quoi, comment, et comment on se met, comment on travaille ensemble pour que tout cela soit viable économiquement. La question de la donnée est importante, puisque finalement, il y a des responsabilités derrière la donnée, et puis il y a aussi de la valeur. Quel serait, selon vous, ou quel est déjà, peut-être, l'acteur qui peut tirer le plus de valeur de cette collecte de données personnelles ?
Je vais répondre à ça. Je pense que c'est clairement le client ou le patient ou l'usager. Et c'est, je pense, lui qui doit être au centre de toutes les prestations et de la maîtrise de tous les produits. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certaines organisations. Enfin, lui ou en tout cas sa personne de confiance ou son tuteur. Ça, je pense que c'est effectivement important. D'autre part, il faut absolument qu'on soit capable d'apporter de la confiance, un niveau de confiance et un niveau de qualité pour qu'on ait envie d'utiliser tout ça. Et donc je crois qu'un des objectifs des prestataires de services à domicile, c'est vraiment de devenir des tiers de confiance, je dirais, comme aujourd'hui une banque, un assureur à qui on communique des données extrêmement confidentielles, mais dont on sait qu'elles sont cryptées, protégées, inaccessibles, sauf cas particulier. Donc ça n'est pas impossible d'arriver à ce résultat. Donc voilà, à mon avis, les conditions tout à fait essentielles. Et non, oui. Alors, je crois aussi qu'en mettant au centre alors le client, le patient, l'usager, hein, suivant les points de vue, je crois que ça nous aidera à faire tomber certaines approches en silo qui sont aujourd'hui extrêmement résistantes. Je pense en particulier au monde médical et au monde non médical. Une des perspectives, c'est que toutes les personnes qui vont passer au domicile soient capables d'apporter de la valeur ajoutée sur un outil électronique. Alors bien sûr, elles n'accèdent pas aux données médicales pour ce qui concerne les personnes, les aides à domicile par exemple, hein, donc il faut que ce soit bien géré, mais clairement, ce sont des personnes qui ont vocation à capter des informations tout à fait importantes et à transmettre en urgence, je pense. Donc l'aspect donné, oui, il est fondamental et oui, Didier, je te laisse continuer parce que...
J'ai justement demandé à Didier de réagir.
C'est pas pour conclure, c'est vous dire que la notion des données est primordiale. Elle est même au cœur des dispositifs que nous réservent les assureurs, les mutuelles, les caisses de retraite pour mettre en place des outils quasiment prédictifs pour pouvoir calculer le niveau de risque par des actuaires qui vont être capables d'adapter des produits et des services à un prix qui correspond au risque que vous portez auprès de cette compagnie. Et le risque, il est effectivement que ceux qui refusent de répondre payent le prix fort, puisqu'on n'arrive pas à vous faire baisser votre contrat ne connaissant pas le niveau de risque de votre logement, de votre conduite, de votre alimentation, de votre capacité à faire du sport ou de plus en faire du tout. Et donc, vous ne voulez pas répondre, très bien, le prix, il est de temps, il est de 100. vous acceptez de répondre et vous nous dites que vous faites du sport une fois par semaine, votre prix est de 90. Vous prenez votre voiture X fois par jour, ok, votre prix est de temps. Donc la notion de gestion de données va être au cœur d'un dispositif économique à l'américaine où vous allez consommer à hauteur du risque que vous coûtez à un organisme. Et je prends un exemple d'un organisme public, d'une caisse de retraite publique, je ne citerai pas, qui dans un questionnaire auprès de ses seniors demande si la personne a eu des envies suicidaires dans l'année. Voilà, une caisse de retraite. Je me demande bien ce qu'elle va faire du résultat. C'est inquiétant.
Est-ce que vous ne pensez pas que, tout à l'heure, Didier, vous disiez finalement, le prestataire de service, celui qui va au domicile, est l'acteur pivot. On en parlait au moment où on se disait, mais finalement, il y a de la conception de solutions techniques et humaines. Est-ce que cette position privilégiée d'acteur pivot irait plus loin encore, et notamment au regard de la gestion de données ? Au fond, l'auxiliaire, enfin la personne, peu importe le métier d'ailleurs, mais la personne qui va travailler auprès au domicile d'une autre personne, elle est en contact avec et elle collecte énormément de données.
On est détenteur de bien des secrets. On a la clé des maisons. Nous connaissons le mode de vie, la religion, la sexualité, on va aller très loin. On a accès au domicile à ce qu'il y a de plus sensible à la vie, du nourrisson jusqu'à la fin de vie. Donc oui, les services à la personne, nous sommes un acteur qui manipulons des données extrêmement sensibles et nous devons être très précautionneux de ça et d'être le garant justement de ce type de données pour être demain le tiers de confiance qui est attendu dans le cadre du bien vieillir.
Je vous remercie. Oui.
Ce que je veux dire, c'est que il n'y a d'ailleurs pas forcément d'autres alternatives, puisque soit on a des professions qui sont capables de s'organiser, et en particulier les prestataires de services à domicile, les résidences-services, ou alors on ne fait pas ce travail et on prend le risque que ce soit les entreprises du GAFA qui prennent le contrôle de tout. Je crois qu'il faut être conscient de ça. Alors les entreprises du GAFA, pour ceux qui l'ignorent, c'est Google, Amazon, Facebook, et j'oublie toujours le quatrième, et Apple, voilà. Et on en voit d'autres encore émerger, et c'est vrai que d'ores et déjà, si vous fréquentez Internet, ne vous faites pas d'illusions. Ils ont déjà stocké vos données personnelles, ils les cumulent pendant au moins 5 ans, et ils sont capables, effectivement, à partir d'algorithmes savants, de ressortir probablement un certain nombre de vos habitudes. Ils vous connaissent très bien, hein, et ils sont capables d'ores et déjà d'avoir une démarche prédictive. Hein, et aujourd'hui, vous recevez parfois des publicités qui vous étonnent, mais ce n'est pas étonnant, c'est tout simplement qu'ils ont analysé les données dans le big data, et voilà. Donc moi je préfère très nettement me tourner vers un tiers de confiance, prestataire de service qui travaille avec un industriel intelligent et performant,
ou plusieurs
absolument, hein. donc voilà, moi je préfère cette perspective et de loin.
Alors on arrive au bout de cette heure d'échange. Il y a peut-être des questions dans la salle. Non. Bon, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à remercier nos quatre intervenants. Moi, ce que je comprends en conclusion rapide, hein, c'est d'abord la diversité du marché, elle s'évalue au regard de la diversité des publics, elle s'évalue aussi au regard de la diversité des acteurs. Je comprends que nous ne sommes pas encore arrivés, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a quand même des points positifs, hein. Le contrat de Civereco qui a été signé, qui a été lancé, même si on pouvait espérer plus, et certainement plus viendra. Bon, moi je retiens des mots clés: prévention, transversalité, confiance, avec le tiers de confiance, hein, Jean-Paul est allé un peu plus loin encore, et puis évidemment les sujets, les enjeux aujourd'hui, au-delà de bien préempter l'intégralité de la diversité du marché, c'est la gestion des données, donc derrière la question des risques avec les conséquences pour les personnes ou pour pour les différents acteurs, et particulièrement donc évidemment aujourd'hui les acteurs, les start-up, hein, les technologies, les prestataires de services et peut-être aussi malgré tout parfois les industriels.